Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC.
I recoup the ball and Memphis give me a good pass after I shoot and I score.
Alors my job is to ask FIFA to come back to 15. Was my English was good?
Ti rendi conto se tu posi una questione a un supporter italiano che ha da qualche anno? Ciao, grazie ancora e congratulations per la sua carriera.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à tous et à tous. Et oui, l'After est là, comme tous les soirs, jusqu'à minuit sur RMC. L'After, la seule émission en direct, 7 jours sur 7. Et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. Bonsoir, Daniel Riolo.
Bonsoir, les amis.
Stéphane Guy, bonsoir.
Soyez un bonsoir. Bonsoir, Nico.
Relâtre avec vous, les gars.
Et oui, dimanche soir à 22h.
Il tourne nu autour de la méno.
C'est ça, trop d'émotions pour bosser ce soir.
C'est ce qu'on me dit, ouais.
Il n'aurait pas pu être audible ce soir, il a perdu sa voix. Strasbourg a gagné à la méno pour la première fois de la saison. On en parlera en toute fin d'after. Bien sûr, d'abord le gros débrief de la victoire niçoise au Vélodrome. 3 buts à 1. Cinquième match, quatrième victoire pour Didier Digard. On va en parler également, les débuts fracassants de l'intérimaire qu'a officialisé pour l'instant à la tête du gym. On en parlera. Vous nous appelez supporter niçois au 32-16. Marseille, série terminée, invaincu depuis octobre dernier, battu ce soir au Vélodrome. Pourquoi, comment, là aussi on va en débattre. Lens qui coince encore, troisième match sans victoire, c'était à Brest cet après-midi, un peu partout. Monaco qui enchaîne dans le même temps à Clermont 2-0 et revient à un point du podium. Les autres matchs de la journée, bien sûr, le 32-16 pour nous appeler, le hashtag RMC Live sur Twitter et le Direct Studio pour envoyer vos commentaires sur l'application RMC Sport. C'est parti pour les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Mais avant les 3 points, messieurs, le rugby, top 14, Stade Français, Union Bordeaux-Bègles. Bonsoir, Julien Richard.
Salut Nico, salut l'after. C'est un match important pour les Parisiens qui ont l'occasion de distancer dans la course au top 6 l'adversaire du soir, l'UBB. Pour l'instant, c'est chose faite, mais alors quel match affreux. Le score à 8 minutes de la fin de cette rencontre, 9 à 6, que des coups de pied, 3 pénalités de Joris Second, 2 pénalités de Zach Holmes pour les Bordeaux-Bègles. Ça nous fait une fin de match extrêmement tendue. Okay. 8 dernières minutes pour essayer de remporter ce match pour le Stade Français ou le BB.
Vos 3 points, Daniel.
On a vu un gros match. C'était un week-end avec un peu la revanche des seconds couteaux. Des équipes dont on parlait moins récemment, Lille, Monaco et Nice. Donc ce soir, l'opportunisme des Niçois, c'est mon premier point. Le deuxième, c'est... derrière la toujours très bonne volonté, la belle détermination des Marseillais, à quelques erreurs ce soir. Est-ce qu'ils avaient déjà la tête au match de mercredi, notamment Tudor dans la compo de son équipe? Peut-être, point d'interrogation et question à poser. Et puis le troisième point, eh bien oui, au tout début de la journée, il y avait Monaco, et Monaco, en toute discrétion, est en train d'enchaîner les victoires. Ils nous refont le coup, des gars qui jouent 3 mois dans l'année, comme Golovin, Mbolo, et puis ça s'enchaîne et ils vont se positionner comme prétendants au podium, clairement.
Stéphane.
C'est un peu la défaite de Tudor. On a dit beaucoup de bien de l'entraîneur marseillais depuis le début de la saison, mais là il s'est loupé dans sa compo d'équipe, notamment de départ. Il a bien rectifié les choses à la mi-temps et sur la deuxième mi-temps, l'OM fait match nul, mais il y avait eu la première. Gros coup d'arrêt pour l'OM, effectivement. On était à quelques jours de la réception du PSG en Coupe de France. On imaginait, alors peut-être que c'est ce match-là justement qui a déréglé Tudor. Je pense que les semaines, trois matchs, c'est compliqué pour l'OM. On l'avait vu en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, et on le voit encore cette semaine. C'est plus compliqué visiblement à gérer, évidemment. Et puis le troisième point, c'est oui, parce que on vante la spectacularité de notre championnat, et c'est vrai, le match du soir a été hyper agréable à regarder, comme l'avait été d'ailleurs le match cet après-midi entre Brest et Lens.
Et Lens, c'est vrai,
un match très sympa, ou hier le Rennes-Lille, voilà. Donc c'est à dire qu'il y a une belle densité, il y a une belle homogénéité, et il y a pas d'équipe qui, à part le PSG évidemment, qui évolue normalement dans une autre dimension, mais il y a pas d'équipe qui se détache réellement, ce qui explique que Lille, Monaco, Nice, même ce soir, peuvent encore éventuellement avoir nourrir quelques
tiens, justement un point de classement, les gars, pour cadrer tout ça. Paris premier, 8 points d'avance,
c'est ça, Nico?
Non, très bien, il faut le faire comme ça, vous ne pas dans un quart d'heure. Combien de points Paris de... Non.
Non, mais on le sait quand même.
Oui. Qui, donne-moi le classement de Ligue 1. Vas-y, point par point, Daniel. Paris, 54 points. Ouais. Marseille, deuxième.
Bah, Marseille.
46 points.
Lens,
46 points.
Là, Monaco
revient
derrière,
à 2 points.
Effectivement. Rennes, 5e.
40 points.
Voilà pour le top 5.
Lille, 6e, 38
Lille
points.
A pris la place de Lorient.
Exactement.
Est passé devant.
Mais Paris, mine de rien, à 8 points. Quand
8
même.
Points
alors qu'on imaginait,
bon.
Moi, j'avais imaginé la semaine dernière, je crois, ou il y a 15 jours, un duel PSG-OM.
Lyon a gagné 2 places en enchaînant.
Je reçois un nombre de messages sur hashtag RMC Live ou Direct Studio. Alors les gars, les journalistes, vous qui voyez Marseille lutter pour le titre face au PSG, ce soir c'est terminé. Non, c'est pas terminé, évidemment. Même si c'est un gros coup de froid pour les supporters marseillais. Tiens, accueillons déjà Benjamin, supporter de l'OM.
Il y a quand même une différence, mais il y a des gens après, c'est toujours pareil. Quoi. Ça dépend comment tu branches ton cerveau et comment tu ouvres tes oreilles. Il y a une différence entre ce qu'on dit cette semaine, c'est que Marseille doit y croire, Marseille doit jouer le titre,
bien sûr.
Marseille doit mettre sa tête pour jouer le titre, ça c'est une chose, et Marseille va être champion. C'est, en fait, c'est pas du pronostic. Si tu dis du pronostic, bah, tu vas chez nos amis Nouina, ils font ça très bien, tu joues, si t'as envie de miser, tu fais ce que tu veux.
Non, beaucoup reprochent d'enflammer enfin, autour de Marseille qui aurait les capacités pour lutter dans la course au titre face au PSG, c'est ça.
Oui, et alors, si t'es à Marseille, tu vas pas te dire avant cette journée, ça se tente. Quand tu vois le niveau du PSG, tu vas pas dire ça se tente.
Le mois de
janvier,
avait en tous les cas, voilà. Le mois de janvier avait permis d'émettre cette hypothèse-là, quand même. Faut pas essayer.
Et j'aimerais dire toujours à ces mêmes neuneux que mine de rien, je pense que s'ils comparent l'after avec la plupart des dossiers économico-social de la vie politique, ils verront que en économie et en politique, on se trompe beaucoup plus que nous dans le foot. Et pourtant, c'est une matière bien plus aléatoire. Bien sûr. Bah, si tu regardes
exemple.
Tu veux quoi comme exemple sur la politique, sur je sais pas, tu veux quoi, le Zemmour prétend au deuxième tour et termine à 8, sur le résultat de Pécresse, d'ailleurs. Il était prévu, sur la façon dont se sont déroulées les élections ou les législatives.
Oui, ou même la déclaration de la guerre à l'Ukraine une semaine avant.
Ou tous les experts politiques et les économistes qui se divisent sur la réforme des retraites.
On connaît les meilleurs. Foot, politique, économie.
Tout compris. Évidemment, l'after est toujours.
C'est bon de vous retrouver, messieurs, le dimanche soir à 22h.
Voilà.
Ah, c'est la belle assurance de Daniel, quand même. Ça fait son charme.
Je vais accueillir Benjamin au 32-16.
J'ai aucun problème avec mon assurance.
Supporter de l'Olympique de Marseille. Salut, Benjamin.
Salut l'équipe.
Bienvenue dans l'after, Benjamin.
C'est ma première fois.
Ah, mais bienvenue.
Merci à toute l'équipe.
Sois à l'aise et bienvenue.
Daniel Riolo, donc c'est pas mal. C'est cool.
On t'écoute,
bonsoir,
mon ami.
Bonsoir à toute l'équipe. Alors, par rapport à Igor Tudor, je trouve que dans les gros matchs, je trouve que Igor Tudor est assez, on va dire, dogmatique. Moi, je trouve que parfois, il faut se réinventer face à des équipes comme, ou soit un entraîneur face à Digard qui l'a bien analysé. Mais je suis quand même assez mitigé sur la composition d'équipe parce que je pense qu'il avait déjà la tête au Paris Saint-Germain en faisant souffler Sanchez et Malinovski parce qu'il y a eu l'enchaînement des matchs. Mais je trouve quand même que sur un match comme Nice. Sur un match comme Nice, tu dois mettre Sanchez, tu dois mettre Malinovski et même Vitinha, tu le laisses parce que ça quand même.
Ouais, mais attends, excuse-moi, mais en fait tu vas vite voir que les raisonnements vont être assez vite incohérents. Parce que oui, je peux te suivre dans l'idée que sur ce match-là, c'est un peu compliqué de faire beaucoup de changements. Mais en même temps, c'est assez dur de lui en vouloir parce que tu remplis ton vestiaire. Tu achètes des joueurs, tu construis un effectif. Si en construisant cet effectif, tu te dis que, et c'est vrai qu'Alexis Sanchez, quand il rentre, il fait des différences qui sont assez incroyables. Mais si tu te dis que tu ne peux pas te passer d'Alexis Sanchez, eh ben, c'est un problème. Oui, parce que tu dois forcément.
Je trouve pas Daniel qu'il fasse des différences incroyables quand il rentre. Je trouve qu'en revanche, Vitinha est transparent.
Sanchez, quand il rentre, il y a une différence énorme. Ses prises de balle, ses orientations de jeu. Encore une fois, je redis.
Qu'est-ce que tu pouvais espérer de Vitinha, Braga, trois jours après son arrivée à Marseille, dans ce genre de match, d'un enfant un peu perdu.
Alors, venons-en à ça.
Et puis, dans 3-4 mois, on verra un autre
Le
Vitinha.
Problème, c'est pas le changement. Je te signale que tu as cité à l'instant dans des joueurs qui visiblement à tes yeux font partie des titulaires en puissance, un mec qui est arrivé depuis 3 semaines, Malinovski. Il y a 3 semaines, il était même pas à l'OM. Et là, d'un coup, s'il est pas là, le jeu serait désorienté. Non. Si t'as rempli ton vestiaire, si ton effectif et si tout le monde s'est félicité du mercato de Longoria, ça veut dire que ces joueurs-là sont tous capables, à un moment, d'être alignés. Le problème, c'est ce que disait Stéphane il y a deux secondes, c'est quand t'enchaînes les matchs comme ça, eh bien oui, il faut que l'équipe elle se règle complètement et que bah c'est des choix, c'est un peu de l'orfèvrerie et que oui, Vitinha qui vient d'arriver, c'est un peu chaud de le balancer tout de suite titulaire, surtout si tu lui colles Payet, le pauvre qui est, bah, on le voit bien que Payet, c'est, il peut plus jouer dans ce rythme-là et qu'à chaque fois qu'il lui fait une fleur pour jouer. Parce qu'à chaque fois, t'as pas remarqué, c'est toujours annoncé comme une fleur.
Tu n'en dis pas que c'est une fleur. Il dit qu'il le mérite.
Non, tu peux le comprendre
comme ça, t'as raison.
Non. Alors, la façon dont il le dit, d'ailleurs, d'abord, c'est toujours très étonnant parce qu'il l'annonce avant. C'est la titularisation qui est annoncée avant. Tiens, Payet jouera parce qu'il le mérite. Genre, moi, pour moi, ça ressemble à une fleur. Donc, que tu fasses Vitinha, qui vient d'arriver, que tu mettes Payet, qui est fatigué, que tu changes également le milieu de terrain, alors qu'il est très important dans son schéma tactique, le milieu de terrain, et que Verretou Rongier, c'est une doublette très importante, que tu la casses, mais encore une fois, tu dois tenter ces choses-là, parce que si tu as un effectif, c'est pour accepter des changements. Tu devrais plutôt regarder, parce que moi, la compo, je veux bien qu'on en parle, effectivement, il y a des choses, Vitinha, Payet en même temps, ça me perturbe. Mais quand tu regardes le match et la façon dont ça se déroule, le match, regarde le deuxième but qui fait si mal aux Marseillais. Regarde ce que fait Tavares sur son retour défensif. Là, tu vas te poser des questions. Il faut regarder ceux qui sont sur le terrain. Qu'est-ce que font ceux qui sont sur le terrain avant de penser à qui n'est pas là, à comment faut jouer.
Balerdi, hein. Balerdi et Paulo Lopez. Paulo Lopez, à mon sens.
Attends, Benjamin, je te rends la parole. Vas-y,
Paulo Lopez n'est pas un gardien pour jouer un titre. Voilà. C'est un bon gardien. C'est un bon gardien. Il n'y a pas de débat là-dessus.
Moi, je le trouve bien.
Mais c'est pas un top. C'est pas un top gardien. Et puis, Balerdi, pareil. Moi, j'entends depuis des semaines. Ah, c'est mieux. Ah, c'est bien. On a retrouvé. Ce soir, on a revu Balerdi, quoi. Je veux dire, il est engagé, sa responsabilité est directement engagée sur deux des trois buts. Et c'est un garçon qui transmet pas trop
sur le côté, ça arrive toujours du même côté. Parce que
ouais,
le mec
aussi, bien sûr, bien sûr.
C'est
pas
compliqué.
Ça.
Le mec,
c'est pas
simple
de jouer avec Tavares et Payet de ton côté. Ça, c'est sûr.
Non, mais le deuxième, franchement, il faut regarder l'image. Et c'est 2-0, ça fait mal. C'est quand même un break dans un match. Après, quand mentalement, tu te dis, on va peut-être revenir. Enfin, c'est quand même deux buts à remonter. Tu regardes cette action-là. La façon dont elle part et la façon dont Laborde vient, tu sais, sur la frappe repoussée, il arrive, mais si un repli, si Tavares est là où il doit être, jamais de la vie, il arrive comme ça dans un fauteuil pour mettre son plat du pied tranquille.
Et Tavares, aussi, regarde où est Balerdi sur cette action-là, Daniel.
Toute la scène, Tavares, il revient au ralenti, à un moment, je dis, bah, qui s'arrête sur le banc, il prend un café et puis il revient se placer. C'est pas possible de revenir au petit trot comme ça. C'est les erreurs, c'est aussi ceux qui sont sur le terrain. C'est pas que. Et puis après, il faudra parler aussi de la façon dont les Niçois ont joué et de l'opportunisme qu'ils ont eu pour saisir toutes, justement, les opportunités. Exploiter les belles séquences qu'ils ont eues.
Benjamin, tu voulais réagir ?
Oui, je voulais réagir aussi par rapport aussi à certains joueurs. Moi, je suis aussi d'accord avec Daniel. Il y a des joueurs qui sont pas au niveau. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont sur courant alternatif. Hein. Tavares, il est bon une fois. Après deux matchs, il est pas trop bon. Je pense qu'il y a aussi des joueurs. Moi aussi, ça me dérange que Payet soit annoncé avant. Dans le jeu de Igor Tudor, je trouve tout simplement que Payet ne peut plus jouer dans ce jeu-là.
Il peut pas, c'est fini, Payet.
Les efforts, ils peuvent pas. C'est pour ça que là, directement, on a vu dans les journaux que Pablo Longoria se projette déjà à la saison prochaine et veut déjà aller chercher Bamba, c'est ça le joueur de Lille. Ouais. Parce qu'il
a à mon avis, c'est beaucoup projeté dans le match de mercredi, à mon sens.
Igor Tudor, en tout cas. Ouais.
Je pense que oui, même Igor Tudor, pour moi, il s'est aussi projeté sur le jeu. Mais je pense qu'aussi beaucoup que l'équipe et peut-être que le staff s'est projeté un peu trop sur le match du PSG et devrait plutôt regarder match après match. Parce que l'équipe, il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés. Pablo Longoria a ramené énormément de joueurs. Je pense que déjà, il faut que les joueurs se concentrent, avoir un excellent collectif, prendre match après match et pas se projeter sur le match d'après.
C'est exactement ce que j'ai dit jeudi sur la discussion sur l'OM peut jouer le titre. Jeudi soir, c'est exactement ce que j'ai dit. Je dis la grande difficulté qu'il va falloir appréhender à Marseille, c'est justement le fait qu'on va répéter qu'ils peuvent jouer le titre et que les joueurs vont en entendre parler et que ça va revenir sans arrêt. Et ça, il va falloir le gérer.
Eux ont essayé de désamorcer, Daniel, puisqu'on a entendu et Longoria et Tudor dire, Tudor notamment, je me projette. Mais c'est normal.
C'est dur de
quand t'as 5 points du PSG à cet instant de la saison
c'est
et que tu vas les jouer deux fois,
c'est logique.
C'est normal que
tu peux
penses,
pas
quoi.
Ne pas y penser.
Mais moi,
ce soir, tu y penses moins.
Et ce soir, la compo de départ était troublante quand même.
Alors, rapidement les gars, on boucle avec le rugby. Ce soir c'est terminé entre le Stade Français et l'Union Bordeaux-Bègles. Julien Richard.
Sur une victoire du Stade Français 12-6, c'était pas beau du tout, mais c'est une victoire très importante pour le Stade Français qui s'accroche solidement à la deuxième place du top 14, qui distance l'UBB prétendant également à ce top 6 de 10 points. Le Stade Français deuxième du top 14 après cette victoire, donc 12-6 face à l'UBB.
Bonne soirée à toi Julien.
J'ai entendu l'analyse, enfin, on peut avoir été un joueur extraordinaire et fabuleux et faire des analyses incompréhensibles. À la mi-temps du match, Thierry Henry sur Prime, qui dit que Nice, ce qui l'a surtout marqué, c'est l'envie des Niçois par rapport aux Marseillais. En quoi les Marseillais n'ont pas eu envie, et ça s'est joué sur l'envie dans la première période, sur l'action de Diop. Il se jette, c'est magnifique ce qu'il fait d'aller chercher la tête, mais c'est pas parce que les Marseillais n'ont pas envie qu'il est en retard sur cette action-là. C'est pas du tout une affaire envie. Il y a eu quelques défauts dans le jeu des Marseillais, mais c'est pas le manque d'envie qui caractérise les Marseillais ce soir. C'est quand même incroyable de dire un truc pareil.
Par contre, là, il y a un problème, Daniel, sur cette action-là, c'est l'intelligence de Mbemba. Qu'un joueur qui par ailleurs a des fulgurances. Mais pourquoi il suit Diop au marquage individuel sur cette action-là? Ça n'a aucun sens.
C'est compliqué.
Ça n'a aucun sens.
La frappe, elle passe. Tu vois, par exemple, j'ai vu les Marseillais faire des frappes ce soir qui sont déviées par des bouts de pied, des bouts de tendons. Et là, la frappe, elle passe. Elle est repoussée parce que Lopez a anticipé d'un côté. Il la remet un peu dans l'axe. Pour un défenseur, c'est oui. Alors tu me diras, l'attaquant l'a anticipé. Pourquoi le défenseur l'a pas anticipé?
Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est cinq mètres derrière.
Mais faire une erreur, ça caractérise pas un manque d'envie.
Non.
L'envie, les Marseillais.
Beaucoup ça joueurs qu'on en a beaucoup.
L'envie, les Marseillais, on affiche de la première à la 90e sur tous les matchs. Tu peux leur faire des reproches. Mais ça joue pas sur l'envie.
Moi, j'ai pensé d'ailleurs à un moment qu'ils allaient revenir dans ce match.
À demain, oui. Après, il y a des occasions.
Ils ont beaucoup d'opportunités.
Les opportunités.
Il y a des éléments. Par exemple, Gigot. Moi, je trouve que voilà, ça c'est un joueur dont on parle jamais, qui est un joueur qui montre pour le coup des vraies qualités. Quand on me parle de Balerdi, moi je dis mais regardez Gigot, c'est largement meilleur que Balerdi. Et en plus Gigot, ce soir sur le but de l'OM, il fait un truc extraordinaire. Vous avez vu à l'origine de l'action du but de l'OM qui est là, Gigot.
Ouais, écoute, beaucoup de joueurs jouissent de liberté. Mbemba, on l'a vu plusieurs fois dans le match, dans la moitié de terrain niçoise.
Et ça, c'est plutôt chouette.
Moi, j'aime bien. Donc, pour Jean-Daniel, l'envie, elle y est, effectivement. Ouais, parfois, c'est un peu désordonné, en réalité, quoi. L'image de Nuno Tavares, de Mbemba. Tout le monde joue d'une liberté absolue.
Ça devient confus, surtout.
C'est plus qu'un déséquilibre, c'est confus, en fait.
Parce que quand t'es mené, alors 1-0, après tu t'enflammes un peu parce que t'as une sorte d'euphorie qui te porte. Et à 2-0, là, c'est devenu encore plus confus. Et comme, dès le retour des vestiaires, enfin pas longtemps après, t'as réduit l'écart. Eh ben là, ça s'est emballé. Et ça, c'est quelque chose que l'OM doit apprendre à maîtriser. C'est finalement ce que t'as retrouvé dans les mauvaises séquences de l'OM cette année, comme en Ligue des Champions, où dans les dernières minutes,
exactement,
après Kolasinac, tu rates la tête. Finalement, tu laisses passer la Ligue Europa parce que t'as l'impression qu'il y a pas un cerveau posé quelque part pour dire les gars. Je vais pas revenir là-dessus. J'adore l'enthousiasme des Marseillais. J'adore ce qu'ils font cette année.
Dans les matchs, ouais.
C'est formidable ce qu'ils font cette année. Il faut juste mettre un petit peu plus de jus de crâne à des moments précis de calme. Et d'ailleurs, ça peut faire une transition. Parce que là où je trouve comme Nice, ils ont fait des progrès, évidemment, dans plein de secteurs tellement ils étaient mauvais. Mais là où parfois ils m'ont le plus impressionné ce soir, c'est dans un match de cette intensité, de rester calme, de dégager de la sérénité à certains moments.
Mais
moi, je trouvais ça
un peu à l'image de leur coach. Une sorte de placidité, au micro, sur le banc de touche, après la victoire, pas un sourire, il marche à deux à l'heure. Il parle à deux à l'heure également, il te parle comme ça en conférence de presse.
C'est ça. Mais bon, visiblement.
On vient prendre trois points à Lille, Lens, Marseille.
Attention, dans l'équipe, en valeur individuelle, dans l'équipe de Nice, on en parle maintenant.
Ils ont fait une pause, on va encore faire un peu de Marseille, parce qu'on a beaucoup d'appels.
Il y a des actes
qui étaient anormales, c'est le parcours de Nice.
On parle à Todibo notamment, Todibo qui revient beaucoup, qui fleurit sur les réseaux ce soir encore une fois.
Et puis il y a un autre joueur dont on parle, c'est Kefren Thuram. Alors, le football français se cherche des milieux de terrain, on en a là.
Benjamin, merci. On a fait 32-16. Bravo pour ta première, Benjamin. Tu reviens quand tu veux. Sur RMC, on t'accueillera. Bras ouverts, évidemment. Dans un instant, Vincent sera là aussi. Beaucoup d'appels de supporters marseillais, supporters niçois. On vous attend également au 32-16. On va parler de votre équipe. 5 matchs sous l'ère d'Igard. 4 victoires, 1 match nul et pas des moindres. On en parle dans un instant. L'after avec Daniel Riolo, Stéphane Guy sur RMC. 23h, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Nicolas Jamin.
L'after ce soir, en ce dimanche soir, avec Stéphane Guy, Daniel Riolo. Dimanche de défaite pour l'Olympique de Marseille, battu 3-1. par Nice. J'ai pas dit les buteurs d'ailleurs, hein, pour ceux qui nous rejoignent. Diop, Laborde, bien Laborde en ce moment. On en parlera dans un instant. Brahimi également. Malinowski pour l'Olympique de Marseille qui avait réduit l'écart de 2-0 à 2 buts à 1. Vincent est avec nous, supporter marseillais. Salut Vincent.
Je trouve meilleur que Gilbert, Daniel, sur les top horaires, Nico.
Non, écoute,
c'est... On en est où là au niveau du top horaire?
Il paraît que le meilleur encore man de France, c'est Alain Marchal.
Pour le top horaire?
Oui, exactement. Vincent, je t'accueille. Bonsoir Vincent.
Salut, bonsoir à vous, bonsoir à l'équipe. Bonsoir,
tout va bien, non?
Ouais, ça va, ça bouge, ça va, il y a pire dans la vie. On en reparle de la question pour le titre avec l'OM?
Ah, voilà. On en parlait à l'instant, justement. Est-ce que tu fais partie de ceux qui reprochent aux observateurs, aux journalistes, d'avoir imaginé une lutte pour le titre entre Paris et Marseille?
Un reproche, non, c'est trop fort, mais oui, quand même un petit peu, parce que voilà, faut pas se voiler la face. On avait 5 points de retard avant, on en a 8 aujourd'hui. Ça a tout changé, voilà, tout simplement.
Bon, toi, tu n'y as pas cru une seconde, hein, on est d'accord. Hein. Parce qu'on a eu beaucoup de supporters à Marseille toute la semaine dernière qui nous disaient, moi, je crois au titre. Je crois que c'est possible d'aller à la lutte avec le Paris Saint-Germain.
Il faut y croire. Il faut y croire. Il ne faut pas remettre en question tout le travail qui a été fait avant et les victoires qui sont passées depuis 8 ou 9 matchs. Mais voilà, c'est comme ça. Ça reste le foot.
Bon, et toi, comment Paris tu l'expliques devant... Comment tu l'expliques la défaite marseillaise ce soir? Dis-nous tout.
Pas mal d'approximations, des passes à contre-temps. Nice a bien joué le coup. Hein. La méthode de Tudor a fonctionné. Mais les autres équipes travaillent aussi. Hein. Ils ont analysé. Je trouve qu'ils ont été cadenassés dès la relance du ballon. Et beaucoup d'approximations, de passes à contre-temps. Alors, la fatigue, Nice a bien joué. Et puis, on a un football porté vers l'avant. Donc, prise de risque. Qui dit prise de risque dit deux buts sur des erreurs peut-être défensives. Quand Claude qui tape sur le gardien aussi fort, le gardien relâche le ballon, mais nous on ne suit pas derrière, par exemple. Voilà, c'est des buts de Niçois, il y en a deux comme ça. Donc il y a Nice en face, hein, tout simplement aussi, qui a bien joué le coup. Hein.
Messieurs, est-ce que ça vaut le coup de parler de Vitinha quand même ce soir? On va tranquillement attendre de le voir sur les prochaines semaines, prochains matchs.
Mais oui.
Non, parce que parfois sur des prises de balles, tu peux voir des choses. Tu peux voir.
Ça l'a pas aidé. Alors
sur les prises de balles et sur la disponibilité, il est là, il est présent, clairement. Il a pas des prises de balles de pied carré. Il se met dans le sens du jeu. Il y a pas de problème de ce côté-là. Maintenant, effectivement, il est pas du tout dans le jeu. Il est pas dans le rythme de cette équipe. Il est pas encore intégré, tout simplement.
Mais comment aurait-il pu en être autrement? À part un joueur riche d'une grande expérience comme Alexis Sanchez, mais lui, il sort de nulle part. Il a aucune expérience. Il était à Braga. Il est frais comme un. Comme une limande dans le nord de Marseille, il va falloir qu'il fasse un peu de musculation, etc. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Moi, je reproche à Tudor de l'avoir mis tout de suite ce soir. Je pense qu'il aurait eu 20 minutes ce soir. Il aurait joué 20 minutes ce soir. Ça aurait été suffisant.
Bah, c'est quoi. Même étonnant.
Parce qu'ils ont joué mercredi. Ouais, voilà.
C'est ça. Parce que Daniel, tu l'as dit. Le match le plus important dans l'esprit de Tudor, ça reste mercredi Coupe de France Paris Saint-Germain. C'est très clair comme choix, Vincent.
Oui, je pense, mais c'est pas aidé Vinicius de le mettre d'entrée de jeu. Voilà, moi je dis que Demir ça aurait suffi. C'est pas l'aider. Dans un collectif comme ce soir avec Payet, deux gros changements dans le collectif. C'est beaucoup et Nice a bien analysé le jeu.
Le problème est je pense que Payet c'est un vrai souci quoi. Parce que en plus, même sur les passes et à la limite, tu dis bon, il peut plus presser, il y a plus l'intensité dans le jeu, il va plus au combat et tout. Ok, mais il lui reste sa qualité de passe. Et ce soir, sur la première mi-temps qu'il joue,
il y a bien un joueur qui a plus de repères.
Quand Payet sort à la mi-temps, on se dit c'est fini.
Il rate quasiment toutes ses passes.
Bien sûr.
Il rate quasiment toutes ses passes. Je pensais qu'au moins ça allait lui rester. Même ça, il l'a plus. Donc, je vous assure, hein, on peut tourner en rond et les tactiques et les machins et si cela. Il y a aussi que fait l'homme qui est sur le terrain. Et quand on va parler de Nice, c'est ça. Hein, moi, je veux bien là. Les gens, ça va s'astiquer dans tous les sens sur la tactique et le machin. Il y a des bons joueurs dans cette équipe. Ce qui était anormal, c'est la situation dans laquelle était cette équipe et le niveau que montraient certains joueurs de cette équipe qui était délirant. Là, c'est juste que ces bons joueurs-là se sont remis à courir et à avoir envie de jouer au foot.
Ils sont dans une organisation qui est quand même claire, qui est précise. Chacun sait ce qu'il a à faire, la perte de balle avec le ballon. C'est quand même, ça, c'est au crédit de l'entraîneur.
Revenons sur Payet rapidement. C'est vrai qu'on s'est dit à la mi-temps quand Tudor décide de le sortir. Là, on se dit, on était ensemble avec Jérôme Thomas, producteur de l'After. Bon, Payet, c'est terminé en fait.
Bah là.
Et deuxième cadeau, deuxième fleur, comme tu le dis toi, Daniel. Il la saisit pas. Ça va être très compliqué.
Là, maintenant, les matchs vont devenir importants en fonction de ce que tu vises. Et de toute façon, au minimum, ils veulent la deuxième place.
Si Ferrand Payet a un quart d'heure de la fin contre Paris, qui fait qualité Marseille, on en reparlera.
C'est que c'est compliqué, quoi.
Ouais, c'est ça. Payet, non, mais c'est ça. Ce sera un super sub. Mais ça, c'est aussi la façon dont Tudor a géré Payet depuis le début de l'année. Hein. Tu peux pas sortir Payet du chapeau alors qu'il joue jamais en lui demandant d'être dans un match à très haute intensité comme ce soir au niveau, quoi. C'est pas. C'est peut-être qu'il aurait. Je sais pas. Hein, j'ai pas en tête le match de Nantes. Peut-être qu'il aurait été plus à son avantage à Nantes mercredi soir parce qu'il y avait forcément moins d'intensité, j'imagine.
Ouais, mais même. Parce qu'en fait, c'est le rythme de l'équipe. À la limite, peu importe qu'il y ait de l'intensité en face. Et l'OM en met. L'OM joue d'une façon où, bah, à un moment, lui, qu'est-ce qu'il fait? Et si en plus, il rate la passe et il casse complètement le rythme de l'équipe, non, je pense qu'il est, il peut plus jouer, quoi, tout simplement.
En tout cas, pas à ce niveau-là.
De toute façon, maintenant, ils ont assez de monde pour qu'ils ne jouent plus, hein, de toute façon.
Et l'OM peut pas se contenter d'un côté Balerdi, Tavares, Payet. Là, c'est pas possible.
Alors là,
c'est triangle des Bermudes.
Ouais, Tavares, ça reste un joueur fantastique. Tavares, on le sait. Sur trois occasions, il va en réussir une. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Mais à côté de ça, il y a trop de nonchalance ou un football trop facile. Donc, des fois, ça passe. Et des fois, comme ce soir, ça passe pas.
Oui, mais pour l'instant, il fait le job. Il a rempli sa mission.
Exactement.
Mais si t'as Payet devant lui, c'est pour le défendre. Et que t'as Balerdi derrière, c'est compliqué.
Merci Vincent, on a fait le 32-16. Tu reviens quand tu veux sur RMC. Allez, on finit sur Marseille avec Florian également. Salut Florian.
Bonsoir tout le monde.
Bienvenue dans l'after, Florian.
Merci. Eh ben, écoutez, je pense que vous avez fait le tour de la question. Après, ce soir, je pense que Tudor, il n'était pas sur Nice. Je pense que son match le plus important, c'est mercredi prochain. D'où le fait de mettre Payet titulaire et Vitinha, qui est, à mon sens, un mauvais choix. Mais ne serait-ce que pour Vitinha et un degré moindre Payet, étant donné la conférence de presse qu'il a eue. Et puis ce soir, on n'était pas dedans. On n'était pas dedans et il y a des joueurs qui font n'importe quoi, comme Tavares, comme Paul Lopez ce soir. Il a du mal, il a vraiment eu du mal. Klose, il n'est pas revenu encore à son niveau d'avant Coupe du Monde. Et puis
il apporte quand même sur son côté, il déborde bien, il est pas mal.
C'est pas
qu'il puisse être mieux, d'accord, mais il est pas mal. T'en as quelques-uns qui sont un peu moins bien, mais l'OM a quand même eu les situations. À un moment, ils pressent tellement, ils sont très hauts, ils sont dans le camp adverse avec un peu plus de réussite. Soir, tu nous deux frappes pas contrer, ça peut tourner
ça
dans
peut
l'autre sens.
Un match nul sans problème.
Faut pas être sévère non plus. Le monde s'est pas écroulé, tu vois.
C'est pas sévère, Daniel. Mais
les occasions elles sont là. Les situations, elles restent là. C'est juste qu'à un moment, il faut. C'est comme je le disais tout à l'heure, tu dois gagner en sérénité. Dans les moments un peu chauds, ton cerveau, il faut le faire redescendre en température. À un moment, c'est comme si la marmite, elle a explosé tellement les gars.
Mais est-ce
qu'on
s'est pas vu trop beau non plus aussi, Daniel? Je vous pose la question à tout le monde. Mais est-ce qu'on s'est pas vu un peu trop beau par rapport à la fin de la Coupe du Monde?
Mais j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure. La grande difficulté à Marseille, quand ça marche très bien et quand tout le monde commence à dire vous pouvez être champion, vous n'êtes qu'à 5 points, Paris est pas bon en ce moment, vous êtes bon et tout, c'est justement là qu'il faut gagner en sérénité, qu'il faut faire redescendre la température. C'est là que c'est très important. Et à l'OM, c'est très dur. C'est un des trucs les plus durs à faire.
Mais je trouve pas qu'on soit si bon que ça depuis 2-3 matchs, parce qu'au vu de nos premières mi-temps contre Monaco, contre Nantes et ce soir contre Nice, je pense qu'il y a un réel problème physique sur certains joueurs aussi. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on joue contre deuxième mi-temps.
Comment tu trouves Guendouzi en ce moment?
Franchement, il est un peu à la ramasse.
Je trouve un peu moins bien, moi aussi.
Et puis, moins à la ramasse, mais moins influent, en tout cas. Il a joué plus bas ce soir, il a quand même gratté beaucoup de ballons. Moi, j'ai trouvé intéressant. Ça se termine quand même, je regarde les stats, là, 22 tirs à 14 quand même pour l'OM.
Cadrés
à 8, c'est ça le problème. Et il y a eu 19 occasions pour l'OM, 10 pour Lille, Nice. Donc, bon. Le score est là et il fait la joie des Niçois, mais effectivement, moi, je pense que tout n'est pas acheté. S'il part avec une autre compo au départ du match, ça va être autre chose.
Le seul qui est au-dessus du lot en ce moment, c'est Alexis Sanchez. Un degré moindre que Rongier.
Wunder, pas mal ce soir aussi, quand même, non?
Mais moins bien que les sorties d'avant.
Moins bien que dit Daniel, moins bien que face à Nantes et contre Monaco.
Bon.
Je pense. Et Paul Lopez n'a pas été non plus très rassurant ce soir. Hein.
Ouais. C'est un peu sévère avec Paul Lopez, notamment sur le premier but, là, qui le pousse, une frappe qui prend une rame vicieuse.
La frappe, elle flotte un peu.
Elle flotte.
Sur le premier à la rigueur, mais sur les deux autres, il y a mieux à faire, je pense.
Peut-être, effectivement. Florian, merci. Il n'y a pas de catastrophe à Marseille, évidemment. Fin de série, Marseille qui n'est plus perdu en Ligue 1 depuis le 22 octobre dernier. Ah oui. Défaite face à Lens, tout de même. Marseille qui reste, malgré tout, deuxième de Ligue 1. On parlera de Lens tout à l'heure, hein, qui coince également, qui a été accroché aujourd'hui à
oui,
Brest.
Il y a beaucoup d'équipes qui en ce moment
donc là, c'est en train de se densifier derrière le Paris Saint-Germain. On va en parler. Lille qui revient, Monaco.
Il y a eu beaucoup de
qui revient très, très fort.
Non, il y a eu un gros enchaînement de matchs qui fait que, bah, tu, par exemple, le match de Lens à Brest, moi, je vois pas une équipe de Lens en déclin. Je vois une équipe de Lens qui est moins en réussite, qui est
moins en réussite, qui est moins tranchante.
Et puis, puis voilà, puis tu fais battre de la Brest au cours d'une saison, tu fais battre de la Brest. Il y a pas de honte à ça. Hein.
Mais tu sais pourquoi
avec beaucoup, de polémiques arbitrales qui ont été je trouve traité avec
contre Lens,
avec dignité par les Lensois, alors qu'ils auraient pu être remontés comme des coucous. Hein.
Mais en fait, le football d'aujourd'hui là, qu'on appelle le football moderne, qu'on voit depuis un an, deux ans, fait de cette intensité, ça demande tellement de jus pour faire tous ces efforts que
Daniel, je te coupe. Didier Digard est en conférence de presse.
Oui,
écoute-moi.
Parce que on peut pas nier que ce sont des résultats exceptionnels contre des équipes de haut de tableau. Et non, parce que je connais le potentiel de l'équipe et que je les vois au quotidien.
Donc, wow. Je n'ai pas étonné.
Placide. Didier Digard.
Ils ont fait quand même Lille, Lens et Marseille dans la même semaine. Trois victoires.
J'avais pas de ressenti particulier parce que c'est une équipe assez difficile à observer. Donc nous, c'était surtout de se concentrer sur nous plus que d'essayer de mettre en place quelque chose par rapport à eux. Et après, je me doutais qu'on aurait des espaces en contre du fait que c'est une équipe qui se déforme énormément. Et ça, c'est vrai que c'est arrivé. Donc tant mieux. Après, oui, j'avais surtout espoir qu'on marque. Sur nos occasions, parce que c'est une équipe qu'il ne faut pas laisser en vie, qui a beaucoup d'énergie, qui a un public qui la pousse énormément, donc il ne faut pas trop en laisser passer.
Didier Digard, qu'on vient d'écouter. Place à Matteo Guendouzi également en zone interview.
Notamment sur des situations où je pense qu'on aurait pu mieux défendre, que ce soit sur, au niveau pour suivre le ballon et pour sortir sur le joueur qui va tirer. Donc c'est dommage parce que ça met voilà un petit coup d'arrêt à cette série. On était vraiment dans une bonne dynamique, mais voilà, on va rien lâcher, on va continuer de travailler pour être prêt déjà mercredi.
Matteo, on vous a vu énormément centré. Les Marseillais, c'était les consignes du coach pour Postac. Par moment, on a l'impression que vous auriez pu peut-être essayer autre chose. C'était un peu redondant.
Je pense qu'on a eu des situations aussi sur les centres, notamment je pense deux ou trois sur les 15-20 dernières minutes où on a eu des situations où on aurait pu marquer. On a manqué, voilà, comme je disais, un peu de réalisme. C'est dommage par rapport à ça parce que quand même dans l'ensemble on a eu on a fait quand même des bonnes choses. Après, voilà, comme je l'ai dit, on a joué face à une belle équipe avec des belles individualités devant et ils ont été efficaces sur le très peu d'occasions qu'ils ont eu.
Voilà, Matteo Guendouzi, on est sur deux rythmes différents face au micro, vous l'avez compris. Moi aussi, j'aimerais parler comme ça aussi parfois. C'est un gage de sérénité, Stéphane.
Ouais, t'es assez tranquille dans la prise de
parole. Oh, je parle un petit peu vite quand même par rapport à Didier Digard. Tu penses à un avocat, c'est Maître Bilger, tu vois pas, Daniel?
Oui,
très bien. Très lentement également.
C'est un magistrat.
C'est pas dans l'attention à la comparaison quand même.
Ouais, il n'est pas avocat.
Exactement.
Et la comparaison, elle est quand même.
Ouais, imposée quand même. Un petit peu.
Ouais.
Excessive.
Mais quand même, ouais.
Bon, non, mais en tout cas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On va parler de Nice, bien sûr, dès maintenant, les gars. Tu l'as dit, en une semaine, on bat Lille, Lens et Marseille. Peut-être que cet homme-là incarne effectivement une forme de tranquillité qu'il a réussi à transmettre à son équipe. Je pense que Lucien Favre, s'il regarde les matchs chez lui depuis sa Suisse natale, il doit avoir un tout petit peu les boules.
Ça, c'est sûr qu'il va les boules. Non, non, visiblement, le discours porte. Lui, il a réorganisé l'équipe. Bon, il joue en contre. Bloc plus ou moins bas, haut. Enfin là, en l'occurrence, c'était vraiment, il était là pour être opportuniste et saisir des moindres occasions. Et il l'a dit, l'OM laisse de l'espace. Quand t'es habile, bah on a vu Monaco c'est samedi dernier. Dans la première mi-temps, ils en ont profité pareil. Et pourquoi? Parce que Monaco, ils ont des joueurs qui savent ressortir les ballons, qui sont techniquement très à l'aise. Ils peuvent te faire mal. Et ben Nice. Ces joueurs qu'on avait peut-être un peu mis de côté et oubliés parce qu'ils avaient un niveau il y a encore un mois qui était très mauvais. Là, enfin, je me rends compte de Ramsey, il avait disparu. T'as l'impression même dans une équipe de jeunes, plus personne en voulait. Le gars là, bon, il est sorti, il baissait un peu vers la fin, mais la première mi-temps, quand il a le ballon, il est propre quand même. C'est quand même un joueur de foot. Après, je parle pas de Thuram, Diop jusqu'en décembre, mais c'est t'as l'impression qu'il savait plus jouer au foot. il y a des bons joueurs dans cette équipe.
Laborde, pareil.
Tous. Et puis là, maintenant, en plus.
Trois matchs, Laborde, là.
Maintenant, ils ont gagné Mofi, qui est quand même un destructeur de défense, tellement il met du poids sans arrêt. Là, il y va. Il pèse. Il pèse en permanence, il fait des appels, ça demande de la tentation,
la tentation, ça va être de dire, on a vu Mofi, Vitinha, ne surtout pas rentrer dans ce jeu-là ce soir.
Rien à voir.
On a un Mofi qui est habitué aux joutes de Ligue 1, qui a déjà joué au Vélodrome, qui avait déjà joué à Marseille, etc., qui rentre dans une équipe qui est en pleine confiance, qui a beaucoup de réussite, parce que sur les trois matchs de la semaine, faire 9 points sur 9, c'est bien payé pour Nice, hein.
Mais ils jouent contre des équipes qui
n'ont pas volé non plus, mais c'est bien payé.
Et contre qui ils ont pu mettre leur jeu de transition. En place. Voilà. Moi, je te dis.
La semaine, elle peut démarrer pour eux, et elle aurait dû démarrer d'ailleurs par une défaite à domicile nette contre Lille, qui aurait peut-être tout changé. C'est ça le foot, hein, c'est des dynamiques, c'est des moments qui tournent pas.
Comment il s'appelle le gardien, Smichel.
Smichel
ressemble furieusement à Philippe Lachaud.
C'est la bande à Fifi quand
même. Ah si, Philippe Lachaud à mort.
Il y a un gros débat cet après-midi sur la bande à Fifi et les films que produit cet homme-là.
Mais aucun rapport avec la ressemblance avec.
Absolument aucun rapport. Un débat, si on voit pas.
Mais lui revient à un niveau, tu trouves Philippe Lachaud, Schmeichel, regarde, il ressemble plutôt à son
père, en fait, furieuseement, plus qu'à Philippe Lachaud. Stéphane ne connaît pas Philippe Lachaud, j'imagine.
Je sais pas qui est Philippe Lachaud.
Il connaît la bande à Fifi, tout ça. Là, c'est une troupe comique qui fait des films.
Babysitting. L'acteur de Babysitting.
Non, bah là. Babysitting, tu connais pas?
Là, t'abuses.
Y a pas alibi.com, c'est ça?
Babysitting, mieux quand même.
Bien mieux. Grand cinéma. On peut aimer le parrain également, alibi.com. Voilà, c'est ce qu'on apprend ce soir aussi. Sofiane est avec nous, 32-16, supporter niçois. Salut Sofiane.
Salut les gars.
Ça va?
Ouais, ça va. Écoute, je suis content. On a assisté à un bon match de football avec de l'intensité de part et d'autre. Et j'ai entendu un peu les propos précédents. Hein. Daniel ne veut pas trop qu'on s'emballe, mais bon. On va déjà commencer par apprécier la victoire, et j'ai envie de vous demander comment est-ce qu'on peut ne pas s'emballer après une victoire à Lens, une victoire à Marseille. Et je voulais féliciter Didier Digard pour le travail qu'il fait. Il a bien su gérer la préfabre, il a apporté quelque chose. Et comme on l'a évoqué, rien à voir avec la première partie de saison. Donc voilà, on est assez contents. On a vu un bloc discipliné défensivement, on a vu de l'efficacité offensive. Il appelle ça du réalisme libre à lui. Techniquement, on a été juste. Et je pense que c'est nous qui avons fait un bon match. C'est pas Marseille qui a fait un mauvais match. Après, j'ai bien aimé les performances de manière individuelle de certains joueurs. Et notamment la première de Mofi. Diop très juste techniquement, Laborde il a un QI football que j'adore.
Ouais.
Et moi j'avais une question aussi pour vous à vous poser. Est-ce que vous pensez que Jean-Claire Todibo a le niveau pour prétendre à l'équipe de France?
Je pense que bientôt sa prétention ne sera pas exagérée.
Le niveau oui, mais il y a une concurrence telle à ce poste, à ces postes-là en réalité.
Il sort quand même des matchs.
La question c'est que tu mets où par rapport à d'autres, par rapport à Saliba, par rapport à Upamecano, par rapport voilà, c'est ça la question aussi.
Je pensais que cet après-midi.
Stéphane, vas-y.
Non, bah écoutons l'autre auditeur.
Vas-y, Sofiane.
Quand je parle de sélection pour attention, je parle pas de suite peut-être de titularisation.
Oui, bien sûr.
Il a rien à envier à des profils comme Dissasi ou quoi que ce soit.
Oui, c'est vrai.
Je pense que
surtout il a un avantage, si je peux me permettre, c'est je pensais à ça cet après-midi. Même si Saliba à Nice a pas été forcément aussi rayonnant qu'à Marseille, mais les deux ont vécu une saison ou deux, même plusieurs maintenant pour Todibo, aux côtés de Dante. Et je pense que pour des jeunes joueurs comme ça, ça doit être... Autant, moi, je suis des fois un peu dubitatif maintenant sur certaines perfs de Dante, même si là, en ce moment, il a été bon. Mais partager le quotidien de ce joueur-là, voilà, partager le quotidien d'un
l'un sert l'autre.
En termes d'expérience, c'est fantastique.
Et ils s'aiment tous les deux, et c'est pour une charnière centrale très.
Ils sont potes, exactement. Dante, parlons de Kefren Thuram également, tu voulais en parler, Stéphane. Il y a quelques mois, on ne savait pas trop quoi en penser de Kefren Thuram, qui a été sa marge de progression. Qui a un volume de jeu qu'on peut trouver un peu brouillon parfois, et là il est en train de progresser.
C'était l'une des grandes énigmes de l'ère Favre, parce qu'il avait même perdu sa place à un moment donné, il jouait plus. Donc alors que moi je trouve que c'est un milieu de terrain fantastique, il a tout ce qu'il faut, tout ce qu'on attend d'un milieu de terrain moderne, il a la puissance, il a la qualité technique, il a la caisse, il peut en répéter les efforts, etc. Non, c'est très haut niveau. Je sais pas quel âge il a, Kefren Thuram. Tu pourras peut-être me dire, Nico, 22.
Je te dis dans quelques secondes. À peine 22 ans. 21 ans.
21, voilà. Bon,
ouais, c'est 2001, je crois.
Ouais. Bon, bah, lui, c'est, 22 cette année. Non. L'équipe de France cherche des milieux de terrain.
lui devrait vite rentrer dans la rotation.
Merci mon cher Sofiane d'avoir fait le 32-16. Excellente soirée.
Merci
à toi.
À je voulais juste vous demander, est-ce que c'est possible d'avoir un maillot de l'after, parce que j'ai jamais réussi à en avoir un.
Ah, ça je sais pas, c'est Gilbert qui a la clé de l'armoire, mais s'il l'a passé à Nico pendant ses vacances, Nico peut.
Écoute, j'ai la clé.
Ah, t'as la clé là.
J'ai la clé, et comme tu as gagné ce soir, Sofiane, tu as gagné un maillot également.
Ah, merci. Voilà,
c'est moi, ma grande générosité. Je vais devoir braquer la serrure de Gilbert quand même. Voilà, forcer un petit peu. Merci à la crocheter, exactement. Merci Sofiane, très bonne soirée à toi.
Merci à vous.
À très vite sur RMC, et les gars. Nice, j'ai pas dit
question,
Nice. Hein.
Nico.
Dis-moi.
Donc, Babysitting 2, excellent. Nicky Larson, catastrophique.
Ah, il les avait divergents à la rédac. J'ai eu l'avis inverse.
Ils sont capables de faire. Pardon?
J'ai eu l'avis inverse, mais Nicky Larson très bien dans un autre genre.
Nicky Larson c'est catastrophique, Babysitting 2 c'est très drôle.
C'est pas nécessairement de quoi on parle. Il y en a encore à Jean-Pierre Melville et Clouseau. On lui parle
c'est
de
bien,
la bande
c'est
à
Duffy. Pourquoi pas
Henri-Georges Clouseau.
Ça nous donne des idées pour les
futurs éclectiques de Daniel.
Exactement. Absolument.
Tout à fait. Ah bon, je regrette qu'on fasse plus moins aujourd'hui des films populaires et de qualité comme on l'a connu nous à l'époque.
Ah oui.
Bah, c'est la grande vadrouille.
Bah pour
on peut faire des films populaires et de qualité. Aujourd'hui, c'est plus
revenu à l'éléphant, ça trompe énormément.
Exactement. Pour le coup, Babysitting, c'est un film populaire. C'est une très bonne comédie. Oui. C'est un style, en fait. Il y a un vrai style. C'est un peu comme les comédies US des frères Farrelly, cet esprit-là.
Je me suis encore humour, un peu dessus, mais bon, pourquoi pas, effectivement.
Non, mais il n'y a pas,
dans la lignée.
Il y a pas tout réussi, je te dis. Il y en a plein qui sont nettement moins bons.
Il a ouvert sa page, sa plateforme, pour la filmographie de Philippe Lachaud.
Et ça, c'est le réalisateur, Philippe Lachaud.
Et acteur également principal.
Et acteur, d'accord.
Nous ne parlerons pas d'Astérix Obélix également ce soir. Vous n'avez pas vu, messieurs, j'imagine.
Ça ne m'intéresse pas, tu vois, par
exemple. Non plus.
Ça ne m'intéresse pas.
Allez, Jérôme est avec nous.
Je crois qu'ils n'ont pas besoin de nous. Hein. Ça doit marcher suffisamment sur nous.
Rapidement, on finit avec Nice, avec Jérôme au 32-16, supporter du gym. Salut Jérôme.
Oui, bonsoir messieurs.
Tu voulais parler de Digard?
Oui, je voulais parler de Digard. Et j'ai envie de lui tirer mon coup de chapeau. Parce que ce qu'il fait depuis 5 matchs, c'est franchement fantastique. Je voulais juste dire qu'il a récupéré une équipe qui était vraiment à la peine. Et aujourd'hui, c'est un homme qui a des idées. J'aimerais qu'on lui fasse confiance jusqu'à la fin de la saison. Et j'espère peut-être que dans l'idée de Gisolfi, c'est en train de prendre forme. Je me demande pourquoi pas le garder pour la saison prochaine. Parce que si ça fonctionne...
Il faut le faire signer 4 ans, après 5 matchs, ça me paraît évident.
Comment
Stéphane. Moi, je vous demande de vous emballer modérément. Si tu me permets.
Je te permets.
Que clairement le message passe, que clairement il adore, le groupe l'adore, que ça colle entre eux et tout. Maintenant,
pourquoi des réserves, Daniel? Pourquoi tu mets des réserves?
Mais parce que je veux voir dans d'autres matchs, je veux voir tactiquement quelle peut être.
Tu doutes ou pas un peu? Ses capacités s'imposer comme entraîneur d'une équipe ambitieuse en Ligue 1?
Oui, clairement. Mais, je veux bien me tromper. En tout cas, évidemment, je vois que, en tout cas, il a un discours pour que les mecs le suivent de cette façon et que des gars qui ne couraient pas se mettent à courir et des gars qui mettaient pas une passe dans le sens du jeu dorénavant le fassent. Évidemment qu'il est entendu. Et c'est déjà c'est le premier élément pour un entraîneur. C'est déjà d'être entendu, d'être écouté. Ça, c'est clair que oui. Maintenant, est-ce que tactiquement, il peut faire autre chose que ce qu'il propose là? Je sais pas.
Jérôme?
Est-ce qu'il n'aurait pas, par exemple, un profil à la Franck S, c'est-à-dire qu'on va chercher quelqu'un du cru, qui a une connaissance et qui émane des idées. Et aujourd'hui, on voit que ça se passe bien avec les jeunes, que c'est une équipe.
On verra. Enfin, quand je lirai une interview de Digard de la qualité de ce que je lis de Franck S, tu sais, il faut durer dans ce métier. Il faut durer. Dans le dernier SoFoot, il y a une interview de Paulo Fonseca. Je vous la conseille tous. Là, on est dans un entraîneur très haut de gamme, très haut de gamme.
En tout cas, voilà, moi je voulais lui tirer mon coup de chapeau parce que on se faisait chier. Moi, je suis abonné, je vais à tous les matchs. On se faisait chier.
Ah ben là, il a réveillé Nice. Hein. C'est clair qu'il a réveillé Nice. Là, c'est génial ce qui se passe. Hein.
Et faire ce qu'on a fait cette semaine. Je pense que toi, Daniel, et je te prends à partie. Je pense que t'aurais pas mis un billet dessus.
De quoi sur les ah bah non
trois victoires gagnantes, c'est
Marseille.
Mais personne, je crois,
tu connais quelqu'un qui a mis un billet dessus.
Tu l'as mis le billet, toi? Moi, ce soir, j'aurais mis un billet sur Nice.
Je pense
qu'on aurait perdu. Pour moi, on perdait à Lens. Lille, on a fait pas un super match. On a été dominant pour un mi-temps. On aurait dû être mené. Ils ont manqué d'efficacité.
Lille, c'est pas que tu prends l'eau.
Lille, c'est un petit miracle quand même, Lille, non?
Lille, un petit miracle?
Non.
La victoire contre Lille. C'est, la première période, Smichel, c'est pas des miracles qu'il fait?
Oui, mais alors en début de saison, Smichel, il a été mauvais. Donc à un moment donné, s'il y a un joueur qui se réveille, etc., c'est aussi peut-être dû grâce à l'entraîneur. Bah, les performances d'un joueur peuvent être dues aussi à la confiance que l'entraîneur lui donne.
Non, mais ça, il n'y a aucun problème, puisqu'on vient de dire qu'il a réveillé les joueurs. Mais de là à dire que tu pouvais miser sur le fait que sur les trois, enfin, que tu gagnes les trois matchs-là, je ne crois pas que tu l'aurais fait.
Non, je ne t'ai pas dit que je disais qu'on gagnait les trois matchs. Moi, je m'étais dit, si on fait 7 points sur ces trois matchs-là, ce sera déjà très, très bien. 6, allez, 2 victoires, 1 défaite. Je nous voyais perdre à Lens.
Je crois que l'objectif du club, c'était 5 points sur 9, hein, si c'est ce que j'ai bien entendu tout à l'heure.
Ça fait 9 sur 9, et Nice qui recevra
9 sur 9.
Jérôme qui recevra Ajaccio et Reims également, double réception.
Ben voilà.
Et le week-end du 26 février,
ils vont enchaîner avec encore deux autres victoires.
Le week-end du 26 février, on aura le derby Nice-Monaco et PSG-OM dans le même week-end.
Exactement.
On y verra un peu plus clair après le 26 février, à mon avis, pour cette équipe.
Exactement. Merci Jérôme.
Ils vont gagner tous les matchs jusqu'à la fin de la saison.
Très bonne soirée à toi. Ne sois pas comme ça. Pourquoi cette ironie? Pourquoi cette ironie?
Bah parce que visiblement.
Mais non, il n'a pas dit ça, Jérôme.
Jérôme,
le supporter niçois qui a quand même mangé pas mal de pain noir ces derniers mois, parce que c'était quand même un peu compliqué, y compris la saison dernière, et se réjouissent de la.
C'est le problème.
Soit un peu dans l'euphorie ce soir.
Le problème,
c'était quasiment au fond du trou, il tape Lille Lens.
Il vient de te dire, vous n'arrivez pas à miser, ça va être ravi de part de lui, ça.
Non, il n'a pas dit comme ça, Jérôme.
Non, il n'a pas dit avec cette voix, parce que je ne sais pas l'imiter. Mais en gros, c'était ça. C'est genre, je vous reproche, vous n'avez pas misé sur les trois victoires de Nice, bordel d'alors, et quand même, merde alors.
Alors les gars,
Jérôme,
alors les gars, réveillez-vous.
Jérôme, bonne soirée à toi. De la Côte d'Azur, évidemment qu'on va gagner tous les matchs qu'à la fin de la saison.
En revanche,
Jérôme. Non, c'est pas ce que j'ai dit.
Non, mais c'est les enflammades, quoi.
Il faut
qu'il y ait un petit peu de match, quand même. On va se calmer.
Daniel, est-ce qu'un jour tu diras un mot gentil sur Nice? Je sais pas. Et pourtant, j'ai lu ton livre. Mais bon.
Lequel? Je parle de Nice dans mon livre?
Non.
Bah alors, quel rapport avec ça alors?
Mais parce
quel
que
livre, alibi.com ou...
En tout cas, est-ce qu'un jour tu diras un mot sympa sur Nice? C'est une question. On verra bien.
Et pourquoi, en fait, d'après toi? Explique-moi, essaye de faire une analyse psychologique, là.
Je crois qu'il est temps de faire une pause.
Excuse-moi, pardon. Donc, depuis le début de la saison, donc, au mois d'août, quand Favre arrive, on ne dit pas des trucs sympas sur Nice, on n'est pas plein d'espoir.
On est plein d'espoir.
Voilà, après, donc là, on a dit des mots gentils. J'ai dit, je n'ai fait que ça, dire des mots gentils. Après, derrière, vous avez fait 6 mois catastrophiques. Fallait dire quoi, en fait? Fallait dire que c'était bien?
Et ça veut dire que peut-être qu'on s'est trompé dans le recrutement.
Bon, voilà. Donc, on ne pouvait pas dire des mots gentils. Donc là, maintenant qu'ils viennent de faire 3 victoires, j'ai pas dit ni de mots méchants, ni de mots gentils. J'ai dit qu'il fallait juste
attendre. Tu attendais de voir.
Et bah oui, alors, et toi, tu veux pas attendre de voir. Tu veux déjà qu'on mette les plumes dans le derrière et qu'on défile sur la
promenade des
carnaval, c'est dans 15 jours, d'ailleurs.
En plus, le carnaval, c'est bientôt. Donc, si tu veux, je descends et on fait le carnaval. Je veux juste attendre un peu.
J'aimerais te voir sur un char au carnaval, Daniel.
Avec grand plaisir.
Avec plaisir.
Il n'y a pas de problème.
On va faire le char de la
fête. Pourquoi veux-tu que j'ai... Je te signale que la dernière fois qu'on m'a fait une crise à Nice, dans la foulée derrière, les gens chialaient. Oh, il avait raison, Riolo. Parce que j'avais fait la gueule sur les victoires en Coupe de France contre PSG et tout. Et derrière, qui est-ce qui avait raison? Donc, restons calmes, c'est tout.
Allez.
C'est tout. Restons calmes.
Jérôme, merci d'avoir fait le 32-16.
Et bravo quand même pour ce que.
Et on va parler de Nice, hein, jusqu'à la fin de la saison, évidemment. Nice qui revient bien. Nice au classement, je ne l'ai pas dit, qui compte désormais 31 points, qui est encore loin de l'Europe, hein, à 9 points de l'Europe, de la 5e place.
Ils vont aller jouer l'Europe, là. Ils y sont encore.
Hein. Ils sont encore.
Eh ben, c'est tout parfait, ça. Hein,
seule équipe française qualifiée pour les 8e de finale.
Ils vont gagner
le PSG.
Ils vont gagner la conférence.
J'ai reçu des messages d'amis niçois qui m'ont dit. On joue la victoire en conférence.
Eh ben ouais, tu vois. Voilà. Emballe-nous un peu. Emballe-toi, Stéphane. C'est la gueule depuis tout à l'heure, là.
Les gars, dans un instant, les autres matchs. On va parler de Monaco, on va parler de Lens également. C'est au programme de l'After jusqu'à minuit avec Daniel Riolo et Stéphane Guy sur RMC, 23h30. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.
Nicolas Jamin.
RMC l'Afterfoot, 23h33 avec Daniel Riolo, Stéphane Guy, on est ensemble jusqu'à minuit évidemment, vous nous appelez au 32-16, on va parler des autres matchs de Ligue 1, après avoir fait un long débrief de la victoire niçoise à Marseille, messieurs Monaco donc, on en a parlé déjà un tout petit peu, Monaco vainqueur 2-0 en 13 minutes, hein, dans les 13 premières minutes, deux buts de Maripán et d'Embolo, Monaco qui revient à 2 points du podium de Lens, bilan 4 victoires, 2 nuls sur les 6 derniers matchs, et je regardais ça également messieurs, Monaco a le meilleur bilan en Ligue 1 derrière le PSG depuis la 6e journée du championnat de France.
Qu'est-ce que ça veut dire, ce genre de stats?
Ça veut dire que depuis la sixième journée, Monaco est la meilleure équipe de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain.
Donc c'est extrêmement simple. Si le championnat avait démarré.
Ça veut dire qu'ils ont fait un début de championnat tout pourri.
La lutte pour le titre.
Ils ont fait un championnat tout pourri, marqué par
élimination en Ligue des Champions.
Deux défaites, deux nuls, une seule victoire après cinq journées.
Et la saison a donc peut-être été plombée par ça.
Certainement.
Et là,
après,
là,
c'est typiquement typique de Monaco. Hein.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et là, ce qui est notable, c'est que il s'impose. Bon, il gagne à Clermont, qui est une équipe qui était plutôt.
Est-ce qu'ils écrasent le match aujourd'hui?
Non, mais
ils marquent vite, ils le gèrent.
En fait, tu sens qu'ils ont des mecs qui sont au-dessus. Mais ils jouent quand même. Ils écrasent pas le match.
Ils jouent sans Benzeguir, sans Ben Yedder, qui étaient leurs deux joueurs phares des dernières semaines.
Ouais, mais il fait tourner pas mal.
Minamino, qu'on n'avait pas vu, c'est remontré, etc. Donc c'est quand même, il y a un gros effectif.
Ça, Minamino, dans la série, les retours et tout, Minamino, là,
c'est un peu mieux aujourd'hui.
Oui, mais
Clément l'a dit, j'ai vu un bon Minamino.
Oui.
Pourquoi tu rigoles, c'est
parce que c'est un peu improbable quoi. Quand tu vois son niveau, tu te demandes
même.
C'est bien
si
parce que
pas trompé
c'est aussi une des équipes françaises engagées en Coupe d'Europe. Hein. Ils vont jouer les Leverkusen.
Ah bon, on va toutes les gagner. Alors,
on l'oublie un peu, mais c'est bien de les voir. Ouais, avec la forme de Nantes, de Nice, de Monaco. Bah, à Paris.
Monaco, tu sais, on va les voir. C'est la semaine prochaine qu'ils reçoivent le PSG.
Exactement. C'est samedi soir.
Et d'ailleurs, c'est très bien parce que le PSG va se faire deux bonnes répétitions avant la Coupe d'Europe, parce que je pense que le match au Vélodrome va être
différent de ce qu'on a vu ce soir.
Un révélateur, parce qu'ils vont être bousculés. À chaque fois qu'ils le sont en championnat, ils perdent contre Lens, Rennes. C'est des matchs où ils sont bousculés.
On va surtout se capter de répondre à l'intensité de
exactement. Donc très bon test. Et d'ailleurs, moi, à la place de Galtier, je mettrai au Vélodrome l'équipe que j'ai envie de mettre contre le Bayern. Comme ça, je teste mon équipe, à condition qu'il y ait des mecs qui puissent revenir, mais j'ai pas l'impression. Et après, contre Monaco, peut-être j'en repose un ou deux, mais ma répétition générale, c'est le Vélodrome. Mais ça va être intéressant, puisqu'on parlait de Monaco, de voir également Monaco contre un gros et contre le PSG dès samedi prochain, pour peut-être s'affirmer encore plus comme une équipe qui peut terminer. Bah alors, on sait plus maintenant, c'est avec Monaco, faut jamais se mouiller, hein. Mais podium, deuxième place.
Ce qu'on sait, c'est que Monaco habituellement finit toujours bien ses saisons. Et là, son sprint, peut-être que l'AS Monaco le lance
cette fin de saison
prématurément par rapport aux saisons précédentes.
On peut avoir des surprises. Hein. C'est ça, quand tu vois Lens qui est en train de se fatiguer, tu sais pas jusqu'où est capable d'aller Nice. J'ai l'impression qu'il peut se passer des choses. Rennes est en train de glisser.
Et puis Monaco, ils sont sur cette semaine, ils se reposent. Hein. Pendant que Paris sera à Marseille, que Lens jouera à Lorient, que Lille va jouer contre Lyon. Donc c'est des gros matchs de Coupe de France qui auront lieu mercredi et jeudi. Et Monaco, ils vont avoir une petite semaine pour préparer la venue du PSG samedi soir.
Puis Monaco a un banc et une profondeur presque inégalée en Ligue 1. Un Golovin encore brillant aujourd'hui.
C'est un geste
splendide sur le premier but monégasque.
Moi, j'ai toujours le doute sur le gardien. Pareil à Monaco. Hein. Je pense que ça peut quand même, dans le rush final, être compliqué avec ce gardien-là.
Bon, Monaco, quatrième de Ligue 1, 44 points, rectificatif, Nice à 34 points, est à 6 points de Rennes, hein, et pas à 9 points du Stade Rennais.
Un peu du mal à compter, ça.
Un peu du mal.
Pour les admissions.
On est à combien de jours de PSG Bayern?
9 jours.
Bravo.
9 jours, exactement.
Moins 9 jours?
8 jours et 22 heures. Alors, le coup de pompe en soi, les gars, vous allez me dire qu'il ne faut pas tirer d'enseignement.
Non.
Pas forcément d'accord avec ça. Trois matchs sans victoire, c'était jamais arrivé depuis le début de la saison.
Mais la série, elle est mauvaise. Et la série, je disais
tout à l'heure, Nice et Brest, aucune victoire. Deux nuls, une défaite.
Cette histoire de jus, c'est vraiment une équipe qui tire énormément, quoi, qui a besoin d'énergie. Et là, ça se voit qu'ils en manquent. Là, il y a un coup de pompe, il y a un coup de fatigue. Parce que la réussite qu'ils n'ont pas, elle est peut-être un peu due à ça, quoi. Tu sais, t'arrives plus à appuyer sur l'accélérateur, c'est un peu cassé.
Bon. Ils ont très bien fini ce soir, cet après-midi à Brest, ils ont bien fini le match.
Oui, mais ils ne font plus le match en entier. On a le sentiment que tu ne peux pas vraiment les bousculer avant. Parce que c'était eux qui montaient toujours dessus. Là, maintenant, il y a pas mal d'équipes qui leur rentrent dedans.
Là, aujourd'hui, ils ont quand même, d'abord, je trouve qu'ils ont fait un match très cohérent, très sérieux. Ils sont revenus au score, ce qui est jamais simple. Et puis, il y a des décisions arbitrales. Ils jouent une équipe de Brest.
Les décisions arbitrales, tu parles de la main?
Il y a eu un pénalty qui a été oublié pour Lens. Il y a eu le but brestois, il est entaché d'une main.
Au départ de l'action, effectivement.
Ouais, qui est net quand même. Donc,
gros coup de gueule.
C'est quand même très étonnant que on a vu des décisions.
C'est-à-dire qu'ils ont besoin de petits coups que ça tourne bien et ça tourne pas bien en ce moment. Mais dans une saison, il y a des moments comme ça où ça tourne pas bien. Faut juste pouvoir l'envoyer parce que là, ça commence à faire long.
Et leur problème, quand même, c'est qu'encore une fois, avoir une semaine à trois matchs, et que c'est pas simple non plus, parce que Bon, ils ont des solutions. Ils ont recruté au mercato d'hiver, mais
ils vont aller à Lorient en Coupe de France. T'as raison de le préciser.
Jeudi soir.
Avant d'aller à Lyon en Ligue 1.
Dimanche soir.
Intéressant.
Et dimanche prochain, on a.
Et Lens-Nantes après. Voilà. Pour les Lensois. Ce sera le 19 février.
Pour Roland, ça ferait 4 matchs en 8 jours. Dans les semaines Courbis.
On va regarder ça. 9 février, Lorient-Lens. 12 février, Lyon-Lens. 19 février. Là, c'est 10 jours quand même. Là. C'est une semaine de 10 jours.
Ouais, voilà,
3 matchs en une semaine de 10 jours. On l'a compris, Daniel. T'as bien compris.
Non, moi, je te promets que non.
C'est une question de sémantique. Lui, il te dit une semaine. Pour toi, une semaine, c'est du lundi au dimanche. C'est ça?
Non.
Pour lui, une semaine, c'est 7 jours.
Ou du samedi. Pour lui, une semaine, c'est du calendrier chrétien qui nous régit encore. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche.
C'est vrai.
Jusque là, hein, là, c'est juste les faits. C'est pas
le calendrier professionnel, c'est le lundi. D'accord.
Oui, peut-être. Oui, parce qu'on commence la semaine par un jour de repos.
Bon. Alléluia. Donc, t'es d'accord avec coach Courbis. 3 matchs. Tu joues un match le dimanche, un match le mercredi, un match le dimanche. Ça fait 3 matchs en une semaine.
Oui, c'est ça.
Oui. 8 jours.
Ah oui.
Bah oui. C'est ce que dit Roland. Bon allez, bref les gars.
je suis pas sûr non plus. Rien cette affaire.
Effet Eric Roy quand même les gars. Il est arrivé.
Effet de tous les nouveaux coachs en fait.
Ouais. 5 matchs
du discours mobilisateur.
Ouais, tout à fait.
Où, parce
oui, mais parfois ça marche pas.
Où ça? À Angers, il y a pas eu un effet.
Angers, le club.
Angers a arrêté la série aujourd'hui. 13 défaites.
À 3 non plus.
Angers, le club est complètement mort. Et tu sais même pas que le coach a changé presque.
Boisama.
Oui, non, mais bien sûr, mais non. Mais globalement, il y a eu des effets positifs.
Non, j'essaie d'y croire parce que beaucoup étaient sceptiques hein, lorsqu'il a rejoint Brest. Brest n'a encaissé que 2 buts sur les 5 dernières journées depuis qu'il est arrivé. Certes, n'a gagné qu'une fois, mais a fait 4 matchs nuls et se relance.
Mais qu'est-ce que tu remarques?
C'est intéressant de le dire.
Qu'est-ce que tu remarques?
C'est un homme qui est très entouré aussi. Hein, il a un trio derrière lui qui l'aide.
Il n'y a pas eu d'énormes révolutions sur. Ça passe pas par la tactique, c'est juste on a mobilisé les hommes, on leur a dit qu'est-ce que vous foutez. Il y avait des joueurs qui se laissaient aller quoi, et juste ces gars-là sont arrivés, que ce soit Digaranis, que ce soit Roy, Brest, et qui est-ce qui a encore changé où ça a marché, il m'en manque un. C'est juste les mecs ont réveillé les hommes. C'est l'animation qui a changé. Dans le football d'aujourd'hui, si tu cours, si tu vas à l'impact, si tu mets de l'intensité, on est dans un football où...
À Lyon, on a changé, hein, je te rappelle.
C'est pas que ça peut suffire. Oui, mais là, t'as changé avec un entraîneur qui a resté en 2009.
Mais Eric Roy, il est resté en 2011, hein.
Oui, visiblement, ça
marche. Mais Eric Roy, c'est des contextes différents, les gars.
On a fréquenté, puisqu'il travaille ici, hein, dans cette maison, donc on l'a.
Parce qu'il a eu le temps de regarder du foot, lui, et de moins jouer au golf.
Le commenter, ouais.
Encore qu'il joue un peu.
Il joue au golf,
il joue au poker.
Il joue beaucoup au poker.
Eric?
Ouais, il a un bon niveau, vraiment. Progresse.
Non, mais je pense surtout qu'il est intelligent. Et je pense que son intelligence lui sert beaucoup dans la situation brestoise, parce qu'il arrive quand même dans un club où il. Pardon? Non, je parle pas, moi, je suis
mais
pas.
Mais raison, tu veux.
Je ne suis pas dans ton bashing de Laurent Blanc.
Dans ce jeu à 3, forcément, on peut imaginer que tu disais non, pas du tout.
C'est pas ça que tu dis.
Soyons clairs.
Je ne suis pas. On parlera de Laurent Blanc.
Eric Roy est un homme intelligent.
Oui, parce que c'est quand même pas simple d'arriver tout seul dans un club où il y a 3 hommes qui sont chargés de l'intérim, qui restent en place. Donc, faut qu'il trouve sa place, faut qu'il ait aussi effectivement un impact quand même, notamment par le discours sur les joueurs, etc. Et je rappelle que, il avait déjà eu l'occasion d'arriver un peu dans les mêmes circonstances dans son club de cœur et formateur Nice il y a quelques années, où ça avait aussi très très bien marché lors de sa prise en main. Donc c'est pas complètement le hasard. Après, malheureusement, ça c'est pour rejoindre Roland, c'est-à-dire qu'avec la victoire à 3 points, 4 matchs nuls et une victoire, ça pèse peu mathématiquement, et Brest reste très concerné par la lutte pour le maintien.
14e, 20 points Brest, hein, 2 points d'avance sur le premier relégable, Strasbourg.
Alors qu'ils sont dans une bonne série.
Ils sont dans une bonne série. Tiens, précision sur Direct Studio, Stéphane, de la part d'Hervé, qui nous dit bonsoir et pardon Stéphane, mais le dimanche est le dernier jour de la semaine dans le calendrier chrétien, car Dieu se reposa le 7e jour. Et oui.
Bon, je vais réviser.
C'est une leçon. Voilà.
Là, je viens de prendre une claque.
Et l'autre entraîneur qui a pris une équipe en cours de saison, c'est Will Steele, évidemment.
Ouais. Évidemment, Will Smith.
Oui, puis il y a le Scordette à ce stade.
Will Smith, j'ai pas entendu. Michael est avec nous au 32-16.
Will Smith ou Castagnier, au choix.
Supporter Castagnier, je ne connaissais pas du coup. J'ai regardé, j'ai fait Google Images.
C'est incroyable, oh, les références culturelles quand même.
T'as préféré le petit baigneur de,
bah quand même,
de Tunis. Et... Michael, supporter du Racing Club de Lens, est avec nous. Salut Michael.
Salut les gars.
Bienvenue dans l'After, Michael.
Merci.
Bon, bien. Comment tu lis, est-ce que ce coup de pompe lensois depuis 3 journées t'inquiète ou pas?
Bah, inquiet, pas forcément. Bon, après, je suis assez d'accord avec ce que disait Daniel il y a quelques instants, parce que justement, j'étais en train de vous écouter. Les événements, on les pousse pas dans notre sens à nous, entre guillemets. Bon, là, il y a des faits d'arbitrage aujourd'hui, mais il y a d'autres matchs où, dans la saison, où c'était dans notre sens à nous. Donc, c'est compliqué. Après, on perd pas. Il y a le match de Nice qui est un peu compliqué. Mais le fait de pas perdre, c'est déjà quand même important, je pense. Donc, on est toujours là. À la base, on n'est pas fait pour être non plus jouer le titre. Donc, être toujours dans le trio de tête, c'est déjà pas mal à ce jour-là.
Et surtout, chaque semaine, donner l'impression que tu joues un match hyper important, que tu ne rates pas. Ça veut dire que t'es dans l'actualité. Regarde, cette semaine, t'as un match de Coupe de France à Lorient, normalement un Lorient-Lens. C'est bof, quoi. Mais là, ça, tout le monde va le regarder parce que Lorient est une bonne équipe. Et puis Lens, maintenant, c'est devenu une équipe qu'on veut regarder.
Il y a un match jeudi soir en plus.
Dimanche prochain, tu vas à Lyon. Un match à Lyon, ça se regarde toujours. Enfin, voilà, t'es constamment dans l'actu. Ça, c'est les clubs doivent s'habituer à ça et d'être sans arrêt, à susciter de l'attente. Et toute c'est une ça. Saison, c'est compliqué de le vivre, ça.
C'est ça, mais ça fait partie de l'apprentissage du club. Donc petit à petit, ça vient. Après, l'année dernière, on a eu un gros coup de pompe qui nous a coûté cher. Et puis, qui nous a un peu plombé la saison.
C'était quand? C'était pas février l'année dernière? Un peu pareil aussi?
Ouais, pareil. Ouais.
C'était février surtout.
Ouais.
Hein.
C'était ça. C'était à peu près à la même période, mais ces matchs-là, on les perdait. Donc,
le
fait de faire nul, c'est toujours ça de pris, entre guillemets. Donc,
Le vrai dérapage en Ligue 1, c'est Rennes. Hein. On parle de Marseille qui perd ce soir. Et évidemment, dans les jours qui viennent, ça va être une catastrophe parce que tout est démesuré quand il s'agit de l'OM, dans un sens comme dans l'autre. Mais le vrai dérapage du moment dans les équipes qui prétendaient à des choses dans cette Ligue 1, c'est Rennes. C'est eux qui, depuis la reprise post-Coupe du Monde, il y a eu la victoire contre le PSG qui a ravi tout le monde là-bas. Mais eux vraiment, il y a eu un vrai problème dans la deuxième partie de championnat. Ils sont plus dedans du tout là.
Depuis leur prise Rennes, c'est 5 matchs, 2 victoires, 3 défaites.
Ouais, enfin en même temps, 3 défaites. Tu regardes l'équipe, t'as l'impression que c'est plus les mêmes mecs.
L'équipe frisson de 2022 qui est devenue.
Parce
que t'as plus les mêmes mecs aussi.
T'avais un 11 qui tournait tout seul et d'un coup tu regardes l'équipe, t'as la défense, elle a changé limite aux 3 quarts. Le milieu de terrain pareil, devant c'est plus la même chose. C'est très bizarre ce qui s'est passé à Rennes. Très bizarre.
Beaucoup de blessés, Daniel. Ça s'explique comme ça aussi.
Blessés aussi, bien sûr.
Nous à Lens, je veux pas faire une fixette, je vais peut-être me faire pourrir par certains de mes collègues supporters, mais on a un Seko Fofana qui,
oui, il est en baisse.
Moment, il a, c'est même pas en baisse depuis quelques temps, c'est un gros creux. Hein. Après moi personnellement, je le trouve assez essoufflé depuis un petit moment.
C'est un joueur d'énergie aussi, je trouve.
C'est ça, mais après, il souffle peut-être pas assez. Après,
c'est un puncher.
Depuis le début de la saison, il est moins bien que l'année dernière, clairement.
À son poste, le souci, c'est qu'à son poste, il a déjà essayé des bonhommes du genre Poreba ou Onana. Ça vaut pas le coup, quoi. Par rapport à lui, c'est les mecs, voilà, c'est pas,
oui.
ça fait pas le job, quoi, par rapport à lui. Donc c'est compliqué, quoi.
Bon, il est inamovible, de toute façon. Je crois qu'il y a pas de débat à Lens.
Mais de toute façon, le meilleur après, la dernière petite chose, un gros big up. Enfin, lui, il revient petit à petit. Mais pour moi, il y en a, on en parle pas assez à Lens. La pierre angulaire de Lens pour moi cette saison, c'est Monsieur Abdoul Samed au milieu de terrain.
Ah oui.
Qui n'a pas été
au top aujourd'hui, d'ailleurs.
Ouais, mais c'est le remplaçant. Il revient.
Ouais, bien sûr, il revient de blessure.
Cheikh Doucouré. On parlait beaucoup de Cheikh Doucouré l'an dernier, mais lui, analyser ses matchs depuis le début de saison, il est énorme.
Et en plus, apparemment, ambianceur du vestiaire lensois. C'est ce qu'on nous dit également. Ouais, très apprécié de ses coéquipiers.
Moi, je le trouve fabuleux, ce joueur.
Excellente recrue. Mickaël, merci. Très bonne soirée à toi. Tu reviens quand tu veux sur RMC dans l'after. Pour revenir sur Rennes, quand même, c'est Jérôme Thomas qui me souffle. Daniel, Traoré, capitaine absent, blessé. Terrier, blessé. Tcheka, oui. Blessé. Assignon, blessé. Oui. J'en oublie sûrement.
Ceci
explique aussi cela. Tu vois ce que je veux dire.
Traoré, le vrai problème, c'est Terrier et tous ceux qui disaient que c'était pas si grave que ça. Non, ça a pété la saison. Mais après, et derrière aussi.
Bon. On n'a pas parlé de Lille ce soir, ça a été fait hier dans l'after notamment, on en parlera cette semaine, on aura le temps, bien sûr. Dans un instant les gars, la suite de l'after, on va évoquer la première victoire de Strasbourg, tiens, à Meno.
On va essayer d'appeler Gilbert, peut-être, qui est en vacances. Sait-on jamais. Je pense qu'il a vu ça en vacances.
Comment ça, il est en vacances?
Sur les bords du Nil.
Oui, en vacances.
Avant de partir en vacances, il a je suis sûr que
il a fait
un crochet.
Il devait être à Adeno. C'est court, les vacances. Une semaine, si tu pars à l'étranger.
Il perd deux jours. Strasbourg?
Je pense pas. À mon avis, il a fait une semaine de vacances du samedi au samedi.
Il repart à Strasbourg? Voyons.
Bien sûr que si.
Ah oui.
C'est plus cher, tout part de Strasbourg.
Ouais.
C'est plus cher. Allez, l'after, la suite dans un instant avec Stéphane Guy.
Il a pas emprunté la
Daniel Riolo. La quoi?
L'avion de Jenner.
23h49, on vient dans quelques secondes, à tout de suite.
RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.
Nicolas Jamin.
L'after sur RMC, 23h50 avec Daniel Riolo et Stéphane Guy. Messieurs, les autres matchs de Ligue 1 de la journée, on a eu 2-0-0, Lorient-Angers 0-0, je le disais, fin de série. Record pour Angers, hein, qui est resté sur 13 défaites consécutives. On est content. Tiens, on va écouter le coach Angevin. Je crois qu'il est prêt dans la machine. Boisama sur l'espoir. Angevin, écoutez.
Je serais menteur de vous dire non. Je l'ai dit. Tant que mathématiquement, il n'y a rien de fait, moi j'y crois. On y croit et là, j'ai vu des belles vertus. Et ensuite, on ne sait jamais. Hein, si on gagne contre Nantes, si on fait un bon résultat chez nous contre Auxerre. De toute façon, il faut se donner de l'espoir. Donc, prenons chaque match les uns après les autres. Et ensuite, on fera le bien. Le 3 juin contre Nantes.
Voilà, Abdelaziz Boisama, hein, le coach d'Angers qui croit encore. Bon, je rappelle, Angers, 9 points. 9 points
lui,
à 10 points du premier tour.
Je ne veux pas lui reprocher. Bravo à lui, mais là, je ne crois pas une seconde.
Pourquoi pas? Écoute.
Angers, donc. Là, je ne vois pas parce qu'il est quand même à 9 points.
9 points de 3, 16e. Exactement.
Bon, laisse tomber. Même de 3, il est à 10 points même.
10 points de 3.
Sans parler de la différence de but, qui est catastrophique.
Il est à moins 29. 3 est à moins 15.
On va s'en sortir. C'est pas si on fait un pauvre match nul aujourd'hui.
Alors, Auxerre-Reims, les gars, 0-0. Le Reims de Will Steele qui ne perd toujours pas. Ça fait 14 matchs que ça dure.
Ouais, franchement, un match, tu pouvais t'en passer un peu.
Hein. Qui aurait pu l'emporter d'ailleurs à Auxerre. Strasbourg donc. Strasbourg qui s'impose enfin à la Méno. Première fois de la saison, 2-0 face à Montpellier, qui plus est à 10 contre 11 Montpellierains pendant une heure. C'est dire la forme actuelle des Montpellierains.
J'allais dire la décomposition de Montpellier quand même.
5 défaites sur les 6 derniers matchs. Plus que 2 points d'avance sur Strasbourg 17e.
Deux qui doivent flipper aussi un peu.
Ah, c'est terrible Montpellier.
Montpellier, faut faire attention à la glissade.
Eux aussi, hein, sont avec un intérimaire d'ailleurs, qui flûte une semaine, on se dit c'est le bon choix, après c'est pas le bon choix, il peut y avoir du mouvement encore
un pitot. Ouais.
Après ils sont allés à Strasbourg pour totalement, franchement bon, Strasbourg c'est l'exploit, ils l'ont fait à la bagarre et tout, mais ils sont archi dominés, possession, tout quoi, ils voient limite à peine le ballon, Strasbourg.
Alors qu'ils ont joué à 11 contre 10 dès la 33e minute de jeu, les Montpelliérains. Écoutez, Maxime Estève, jeune, je précise, hein, défenseur montpelliérain, il a 20 ans seulement. Énorme coup de gueule juste après le match en interview.
On a été zéro. De toute façon, ça fait quelques temps qu'on est zéro. Donc moi, ça ne m'étonne pas. De toute façon, à un moment donné, on n'arrive même pas à se créer d'occasion. J'ai l'impression qu'on aurait pu jouer 6h30 qu'on n'aurait pas mis un but. À un moment donné, il faut sortir les doigts du cul. Moi, ça me casse les couilles tous les week-ends qu'on soit dans la difficulté comme ça. Donc voilà, tout simplement, c'est compliqué. De toute façon, la remise en question, elle est faite. J'ai l'impression depuis un an et demi, mais ça ne fonctionne pas. Il faut dire les choses. Donc à un moment donné, voilà, ça, on en revient à là maintenant où on est. Voilà, tout simplement. Et on a tout ce qu'on mérite.
Maxime Estève qui a bien dit les choses au micro de Prime. 20 ans. C'est rare, hein, un jeune joueur de 20 ans, deuxième saison Ligue 1.
Dans la foulée, la phrase après, c'est dans le vestiaire, on s'est dit les choses.
Il a dit, ouais, il faut dire les choses. Oui.
Donc, ça, il l'a dit dans les médias. Maintenant, il faut qu'il aille dire ça dans le vestiaire.
À la même. Potes. Certainement. J'accueille Alexis, supporter à Strasbourg au 32-16. Salut Alexis.
Vous allez bien?
Bien et toi?
Salut Alexis.
Bon, elle fait du bien celle-là. Enfin, t'étais au stade ou pas?
Ouais, j'étais au stade. Ouais,
tu as vu Gilbert nu tourner autour de la Méno ou pas? Non?
Pardon?
Tu as vu Gilbert nu tourner autour de la Méno ou?
Écoute Stéphane, je crois qu'il est encore en train de courir.
Il me semble, là, c'est ce qu'on m'a dit aussi.
Il fait encore des tours de terrain là. Non, mais on est tous rassurés et je pense que ça va être très compliqué. Et effectivement, on va pas se mentir, on va pas s'inventer un jeu collectif extraordinaire sur cette demi-saison. Je pense que maintenant, s'il faut y aller, on ira comme je crois que c'est Daniel qui le disait, avec le couteau entre les dents quoi. Et en fait, c'est un peu ce que Stéphane voulait pas faire. Son adjoint, lui, l'a su. Hein. Je pense que. Certes, on est dominé, mais en fait, je pense que c'est un peu assumé, d'autant plus à 10, mais même si on avance contre 11, hein, je pense que maintenant, il y a un parti pris qui est celui de laisser le ballon et puis d'y aller à la hargne.
Ouais.
Peut-être que ça marchera.
Peut-être que ça marchera.
Il va falloir quand même gagner quelques matchs. Hein.
Ouais, mais alors il y a des motifs d'espoir. Alors déjà Diallo, alors pour parler rapidement de Diallo, parce que il est quand même très très bon là ce soir, ces deux buts ils sont magnifiques.
Là en ce moment t'es encore dans la charrette.
Ouais,
mais honnêtement, je vais te dire, je crois pas qu'aujourd'hui dans cette Ligue 1 tu puisses t'en sortir à la baston. Parce que je pense que Troyes joue mieux, largement mieux au foot que vous. Ils n'ont qu'un point d'avance sur vous. Mais Brest, ça s'est mis à jouer. Il y a vraiment, à part l'espoir que Montpellier dégringole, il va falloir faire autre chose que de la bagarre pour s'en sortir.
Et pour faire autre chose, Daniel, qu'est-ce que t'en penses toi de Morgan Sanson là, qui est quand même pas trop mal, qui fait beaucoup de bien au milieu de terrain dans cette équipe. Et puis Diallo, je voulais juste en parler rapidement aussi parce que je pense qu'il est un peu libéré avec le départ d'Ajorc. Donc ça, c'est peut-être des éléments à prendre.
Ouais, mais ça maintenant, ça va être au coach de trouver autre chose. Le problème, c'est qu'ils tergiversent à Strasbourg. Alors d'abord, ils ont longtemps tergiversé pour se rendre compte, et visiblement eux en interne le savaient quand même, qu'il y avait un gros problème entre Julien Stéphan, son adjoint, et les joueurs. Donc déjà, ça, ils ont mis très longtemps à analyser ça, ce qui est un gros défaut. Donc ils ont perdu du temps. Dans la foulée, ils ont mis l'encornaire. Et parce que les joueurs le voulaient, alors que les contacts étaient très avancés avec la mouchie. Bon, ils ont gardé le cornet. Bon, j'entends avant la rencontre que sa place se joue dans le match contre Montpellier. Genre, tu gagnes contre Montpellier en ayant joué à 10, en ayant défendu le cul par terre, tu gagnes le match parce que Montpellier est complètement bidon, et bim, ça donne toute la crédibilité à l'entraîneur. Non, alors qu'on a félicité pendant des années la gestion de club de Strasbourg, ça, c'est pas une bonne gestion.
Ou du sursis, peut-être.
Ça, c'est pas une bonne gestion. À un moment, tu décides, soit tu mets un entraîneur et t'essayes de créer un nouvel élan, tu réfléchis à comment tu fais jouer l'équipe, mais tu vas pas pouvoir avancer, je te dis, dans la Ligue 1 aujourd'hui, l'époque où tu t'en sortais à la baston, je pense que cette époque est révolue, il va falloir vraiment trouver autre chose. Bon. Donc je sais pas si c'est avec ce coach. Il reste 17 ou 16 matchs? 17.
17.
Bon, bah,
cette équipe qui vont lutter quand même, pour 17 matchs. 16 matchs,
c'était la 16 journée, 16 matchs, c'est beaucoup, 16 matchs, hein. Peut-être qu'il faut faire quelque chose, peut-être qu'il faut trouver un coach pour aller gagner 3-4 matchs qui vont être décisifs.
Et Daniel, tu parlais des équipes comme Brest ou comme Troyes qui sont peut-être au-dessus de nous, mais il y en a peut-être d'autres, des équipes qui vont passer derrière, hein, et notamment notre adversaire du jour.
À part espérer que Montpellier dégringole encore plus, pour le reste c'est chaud. Il y a que eux qui, s'ils continuent à glisser comme ça, peuvent tomber. Mais attention,
t'as mois de février où t'as le déplacement à Lille, donc là compliqué. Après réception d'Angers, déplacement à Clermont, réception de Brest. Donc
ça là, c'est des matchs tu dois gagner. Voilà, fin février, là tu dois aller gagner. Là tu dois aller chercher des. Là il faut aller chercher du gros point là dans ces matchs là.
Voilà Alexis, merci d'avoir fait le 32-16. Tu peux nous rappeler quand tu veux revenir dans l'after sur RMC. Les gars, bon, on n'a pas parlé de Nantes, hein, qui s'impose. C'est pas mal Nantes en 2023. Ça va mieux, victoire 2-0. On est en train de s'éloigner tranquillement de la zone rouge.
Ils vont jouer le gros match
face à Ajaccio.
Face à la Juve.
Et sachez également que le Barça s'est imposé.
Incident déplorable à Ajaccio.
On en parlera.
Supporter.
Tout à fait. Terrible. J'ai de projectiles notamment. Je rappelle que le Barça compte ce soir 8 points d'avance sur le Real Madrid. On en parlera demain soir dans les drôles. Avec les drôles de dames dans l'after des 20h. Et puis que Tottenham a battu City un week-end où Arsenal a aussi perdu.
Mais tu sais, donc, le nombre de grosses équipes en Europe où ça va pas fort?
Beaucoup.
On peut avoir cette année Naples champion d'Italie, Arsenal champion d'Angleterre et Barcelone champion d'Espagne. Donc effectivement, ça renouvellera.
Barcelone, c'est un peu plus.
Barcelone,
normal.
Ouais.
Et bon. Les autres, effectivement,
je précise que l'Inter a battu le Milan 1-0 grâce à un but de Lautaro Martinez. Tout ça demain soir dès 20h dans l'after, les drôles de dames.
Le foot est fluctuant.
Et jusqu'à minuit. Merci Daniel. Merci Stéphane, c'était un plaisir.
Bonne
à demain.
Bye.